Chers auditeurs et chères auditrices, nous continuons notre série concernant l'importance de la prière. Nous en sommes à la deuxième partie et c'est le numéro 9, le CD numéro 9. Et le thème de cette deuxième partie sera la prière, les conflits, c'est-à-dire c'est une lutte. Il est dit dans le livre de Néhémie, au chapitre 4, verset 9 et le verset 17, et notez encore le verset 20, il est dit, « Alors nous priâmes notre Dieu et nous établîmes des gardes de jour et de nuit pour nous garantir de leur attaque. Ceux qui bâtissaient la muraille, ainsi que ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux, ils travaillaient d'une main et de l'autre, ils tenaient une arme. Au son de la trompette, de quelques endroits qu'il vous arrive, rassemblez-vous autour de nous, notre Dieu combattra pour nous. » Néhémie 4, versets 9, 17 et 20. Ensuite, notez s'il vous plaît Éphésiens chapitre 6, verset 18. Là, il est dit, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Éphésiens chapitre 6, verset 18. La prière a souvent été comparée à une lutte. C'est vrai. Et l'on a très souvent fait un appel à venir se joindre au rang et à entrer dans la bataille du Seigneur. Mais il y a une erreur dans un appel semblable. Car bien qu'il soit vrai qu'il y a une telle lutte et une compagnie appelée à combattre, eh bien la conscience réelle de la lutte ou de la bataille de la guerre, eh bien elle n'existe pas avant que nous soyons sauvés, avant que nous soyons au Seigneur. Il est important de répéter cela et que vous puissiez le saisir dans votre esprit. Donc, toutes ces luttes et ces batailles, ces guerres, on peut bien appeler cela ainsi, n'existent pas avant que nous soyons sauvés, avant que nous soyons et que nous appartenons au Seigneur. Donc, ceux qui ne sont pas convertis, qui ne sont pas nés de nouveau, ne connaissent rien de cette lutte-là. Elle est pour eux une chose dont ils ont simplement entendu parler, qu'on leur a raconté, mais qui leur est objective, et c'est-à-dire en dehors de leur conscience, et dont ils n'ont que des idées confuses ou fausses. Et ce n'est pas avant que nous soyons réellement en Christ, que nous pouvons connaître la réalité de la bataille ou en comprendre la véritable nature. Je répète, ce n'est pas avant que nous soyons réellement en Christ, que nous soyons réellement de lui, que nous l'avons accepté, que nous lui appartenons, que nous pouvons connaître la réalité de la bataille, ou au moins comprendre la véritable nature. Mais ce n'est pas simplement la lutte de la vie chrétienne. Dans le sens général et ordinaire qui nous occupe maintenant, eh bien, voyez-vous, cette lutte qui est spécialement liée à et reliée au témoignage complet du Seigneur Jésus, Donc la conception générale de la lutte chrétienne, c'est qu'elle se livre contre le mal, contre les choses mauvaises, contre les vices, contre l'esprit de ce monde et les conditions humaines qui devraient être différentes. Et c'est en cela que consiste la compréhension erronée des hommes et des femmes non convertis. J'ai bien dit qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Car ils pensent que notre entrée dans l'armée chrétienne, que cela signifie se mettre en lutte contre le mal, contre les erreurs et les vices qui abondent dans ce monde. Mais lorsque nous entrons réellement en contact avec le témoignage entier du Seigneur Jésus, nous avons bientôt conscience d'un autre conflit, et oui, c'est-à-dire ce n'est pas simplement contre le mal, contre les erreurs, contre le péché, bien sûr que cela est aussi, mais pas seulement, que nous avons à lutter, mais contre les puissances spirituelles. Ce sont des puissances intelligentes, rusées, perfides, venimeuses et malicieuses qui se trouvent derrière ce monde. Donc, c'est cette lutte-là qui nous concerne maintenant. C'est celle qui est liée au témoignage entier du Seigneur Jésus quant à sa souveraineté absolue et sa seigneurie parfaite dans cet univers. Et cette lutte, elle ne se livre pas contre des choses, non, mais contre des êtres spirituels qui sont gouvernés par un grand personnage spirituel, le malin, c'est-à-dire Satan. Donc, le conflit spirituel implique une position spirituelle. Cette lutte est donc reliée à une position. Nous ne pouvons en avoir conscience que en entrant dans un certain royaume. L'on peut être un chrétien et en tant que chrétien, l'on peut réaliser être en présence d'adversités, de difficultés, d'oppositions, de choses qui rendent la vie chrétienne difficile et pleine de conflits et qui demandent tous les traits militants du caractère, sans cependant être entré dans les choses suprêmes du témoignage du Seigneur Jésus et dans le domaine suprême de la lutte des saints. Mais lorsque un croyant arrive à une révélation de la plénitude de Christ dans sa souveraineté et dans sa seigneurie personnelle, dans la grandeur de l'œuvre de sa croix et dans tous les domaines, et qu'il arrive ensuite dans la lumière de l'Église qui est son corps, alors il entre immédiatement dans un nouveau royaume de conflit. C'est-à-dire la bataille, elle change de caractère et il commence donc à avoir conscience, ou plutôt la conscience commence à grandir en lui, c'est d'être en présence maintenant d'une chose beaucoup plus sinistre. Oui, beaucoup plus intelligemment mauvaise que le mal qui abonde dans le monde. Il devient donc de plus en plus conscient de se trouver en présence directe et nue du diable lui-même, ainsi que de ses forces. Mais cette conscience, elle est liée à une position spéciale. Et l'expérience des croyants, c'est que, à mesure qu'ils avancent avec le Seigneur, ce qui signifie à mesure qu'ils s'élèvent et que les choses terrestres font place aux choses célestes, donc à mesure qu'ils s'éloignent de la vie de la vieille création et entrent dans celle de la nouvelle création, c'est-à-dire de la vie de la chair dans celle de l'esprit, alors là, ils entrent en contact avec les puissances spirituelles suprêmes de l'univers et le conflit donc va prendre de nouvelles formes et la lutte va prendre un nouveau caractère. C'est donc une lutte qui est reliée à une position spéciale à laquelle arrive le croyant et dont la conscience ne lui est donnée que dans un certain domaine. C'est dans une mesure plus pleine, une lutte spirituelle. Et comme elle est une lutte spirituelle, elle présuppose un état spirituel de la part du croyant. Pour exprimer cela d'une autre manière, plus nous devenons donc spirituels, plus la lutte va devenir spirituelle, et à mesure que la lutte devient plus spirituelle dans notre conscience et dans notre connaissance, alors nous pouvons réaliser avoir grandi spirituellement. Et lorsque nous sommes charnels, notre lutte est charnelle. Nous parlons à des croyants et non pas à des incroyants. C'est pas pareil. L'incroyant n'est pas charnel. Il est simplement naturel. Lorsque nous sommes charnels en tant que croyants, alors notre lutte est charnelle. Et elle se livre avec des armes charnelles. C'est-à-dire, nous rencontrons les hommes sur leur propre niveau, nous répondons aux défis des hommes selon le même esprit. S'ils nous approchent par des arguments, nous leur répondons par des arguments. S'ils s'adressent à nous par la raison, nous leur répondons par la raison. S'ils nous approchent avec irritation, nous leur répondons dans la chaleur de la chair, s'ils viennent à nous avec des critiques, eh bien, nous leur rendons ce qu'ils nous donnent en cherchant à faire mieux et en les rencontrant sur leur niveau. Or, ça, c'est une lutte charnelle. Elle est faite avec des armes charnelles. Mais attention! Lorsque nous cessons d'être charnels, que nous abandonnons toute base charnelle et que nous devenons entièrement spirituels, alors nous nous trouvons absolument dans un nouveau royaume, c'est-à-dire derrière les hommes où nous rencontrons directement des forces spirituelles et non plus des forces simplement charnelles. Alors nous sommes entrés en contact avec ce qui se trouve derrière l'homme charnel et l'homme charnel est complètement impuissant en présence d'un homme spirituel pour la simple raison qu'il ne réussit pas à ramener l'homme spirituel sur son propre niveau. C'est pourquoi il est désarmé et tôt ou tard, il devra reconnaître que cet homme lui est supérieur. Mais sa supériorité, elle ne signifie pas simplement que l'homme spirituel est sur un nouveau niveau, mais c'est qu'il rencontre non pas l'homme naturel, mais les forces qui sont derrière cet homme. Je répète, il rencontre non pas seulement l'homme naturel, mais il rencontre les forces qui se trouvent derrière cet homme. Et c'est maintenant que c'est une lutte spirituelle. Et nous cessons de lutter selon la chair, et nous cessons de lutter contre l'homme. Nous cessons de lutter avec la chair, et notre lutte est dans un tout autre royaume. Cela représente une avance spirituelle, une croissance spirituelle. Et cela représente la spiritualité. Et lorsque nous entrons dans une réelle lutte spirituelle, cela présuppose un état spirituel. Et dans ce royaume, les ressources de l'homme naturel sont entièrement inutiles. Elles sont mises de côté. Et pour cette guerre, seul un équipement spirituel peut être permis ou efficace. Ensuite, évidemment, la lutte se livre avec des armes spirituelles, des ressources spirituelles, un équipement spirituel. Et c'est ainsi que Éphésiens, chapitre 6, nous trouve dans les lieux célestes. Elle nous trouve là, luttant non pas contre la chair et le sang, mais, comme il est dit, contre les principautés et les puissances. Mais nous sommes équipés maintenant d'une armure spirituelle. Nous sommes donc revêtus de l'armure de Dieu. Voyez-vous, tout cela n'est que préliminaire, car la chose à laquelle nous arrivons maintenant et qui a pour nous une importance fondamentale, après que nous avons vu la nature de notre lutte, c'est que le champ de bataille de cette lutte est la prière. Lorsque l'apôtre nous a montré toute la panoplie de Dieu, l'armure dans toutes ses parties, et nous a exhortés à la prendre et à tenir et résister, il ouvre, pour ainsi dire, le terrain sous nos pieds et il dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Éphésiens chapitre 6, verset 10. Le champ de bataille de cette lutte, c'est donc la prière. Ce que nous voulons dire, c'est ceci. Cette bataille est gagnée uniquement sur la base de la prière, ses forces sont frappées et défaites sur la base de la prière. Et comme il en est ainsi, le grand objectif de l'ennemi est la vie de prière du croyant. Le point central de toute l'attention et de la stratégie de l'ennemi, c'est la vie de prière du croyant. Si nous ne disons pas davantage que cela, eh bien c'est la chose suprême que nous devons saisir et nous devons reconnaître. Nous avons donc dit la chose la plus importante qui puisse être dite à cet égard. Le point central de toute la tension et de toute la stratégie de l'ennemi, c'est la vie de prière du croyant. S'il peut, par exemple, la détruire d'une manière ou d'une autre, eh bien, il aura gagné la journée, car il aura défait les saints et il aura entravé les desseins de Dieu. Je répète cela parce que c'est important. Le point central de toute l'attention et de toute la stratégie de l'ennemi, c'est la vie de prière du croyant. S'il peut la détruire d'une manière ou d'une autre, il aura gagné la journée, car il aura défait les saints, il aura ainsi entravé les desseins de Dieu. L'ennemi lutte contre la prière avec persistance, avec énergie, violemment et avec ruse. Il lutte contre la vie de prière du croyant. Et il lutte de différentes manières. Il cherche, premièrement, à l'empêcher. Il crée des entraves. Et nous aurons une bataille et un conflit à vaincre pour avoir la prière. Non seulement pour prier, mais pour avoir la prière, pour arriver à prier. Et l'ennemi emploiera toutes ses ruses, sa finesse, son astuce, son ingénuité et toutes ses ressources pour empêcher une réelle prière spirituelle. Je pense qu'il sera probablement suffisant pour nous de nous concentrer sur cela maintenant. Je suis certain que la plupart des enfants de Dieu seront d'accord si nous disons que l'une des choses les plus difficiles, sinon la plus difficile, sera de nous mettre à prier, de nous livrer à la prière, et que dès que nous pensons à la prière, nous rencontrons une foule de difficultés imprévues, non supposées, qui vont s'élever comme des forces embusquées qui se déchaînent sur nous. Absolument, tout pour empêcher, bien entendu, de prier. Et c'est ainsi, je ne dis pas quelque chose que nous ne connaissons pas, mais je le répète afin que nous le reconnaissons clairement, définitivement, délibérément, et que nous envisagions le fait. Ce ne sont pas simplement les circonstances ordinaires, mais c'est un fait provoqué, un plan bien décisif de l'ennemi pour empêcher la prière. L'ennemi, plutôt que faire objection, cherchera donc à nous occuper par un millier de choses pour le Seigneur. Il n'est pas contre. S'il réussit par là à ne laisser aucune place à la prière, il a gagné. Peu lui importe que nous soyons occupés dans l'œuvre du Seigneur, peu lui importe combien nous faisons de prédications, présidons de réunions, faisons sous tous ses aspects l'œuvre du Seigneur, comme nous l'appelons, il sait, l'ennemi parfaitement, que toute l'œuvre pour le Seigneur qui n'est pas, absolument pas fondée sur une prière spirituelle triomphante, elle n'aura que peu ou point de valeur pour finir et qu'est-ce qui va arriver? Elle s'effondrera. Et nous disons qu'il ne s'inquiète pas de notre travail, pas du tout. Plus nous allons travailler, mieux ça sera pour éviter que nous ayons du temps pour prier. Travaillons pour le Seigneur autant que nous le pouvons, mais si nous laissons de côté la prière, nous accomplirons bien peu de choses. Et l'une des subtilités de l'ennemi consiste à nous occuper, à nous presser au travail, à nous tenir toujours en mouvement, à nous charger, comme nous le pensons, de choses pour le Seigneur, de l'œuvre du Seigneur, si bien que notre prière en devient restreinte, elle devient repoussée dans un coin et très limitée, sinon même entièrement mise de côté. Et le Seigneur n'acceptera jamais cette excuse-là. Seigneur, excuse-moi, car je suis trop pris par tes intérêts pour prier. Eh bien ça, le Seigneur n'acceptera jamais. Or, le Seigneur ne peut jamais accepter une attitude pareille. Nous nous souvenons que lorsque les enfants d'Israël ont commencé à parler de leur exode de l'Égypte et à l'entrevoir, eh bien la réaction de l'ennemi fut de doubler leur travail, c'est-à-dire de les occuper profondément de labeur afin qu'il ne leur reste aucun temps pour penser à l'exode. Et dès que nous commençons à penser ou à vouloir une vie de prière plus pleine, eh bien là, l'ennemi lancera un nouveau plan pour nous occuper, surtout pour nous suroccuper et nous harceler en accumulant le travail, en faisant redoubler les demandes, de sorte que nous n'ayons plus le temps ni de possibilité pour la prière. Je pense, mes bien-aimés, que nous devons veiller à cela très définitivement. il y aura naturellement toutes les excuses au sujet du devoir, des obligations et de la responsabilité, et il nous semble que mettre de côté certaines choses pour la prière signifierait négliger ces devoirs-là, faillir à ses obligations. Mais il arrive un moment où nous devons abandonner toutes ces questions au Seigneur et commencer à prier. Or, c'est naturellement très difficile d'appliquer tout cela. Il y a toujours un danger à dire quelque chose de semblable, car il y a toujours des personnes qui sont bien trop disposées à abandonner leurs responsabilités, qui ne prennent pas leurs responsabilités au sérieux. Elles seraient donc trop disposées et trop prêtes à remettre leurs affaires domestiques à quelqu'un pour cultiver une vie de dévotion. Il faut que le Seigneur veille sur ses paroles. Mais il nous faut reconnaître que l'ennemi édifiera ses arguments les meilleurs au sujet de notre responsabilité, de notre devoir conscient pour nous empêcher de prier. Et il y a un moment où, si nous voyons que la prière est entièrement laissée de côté ou ramenée à une place si limitée qu'elle est devenue complètement inadéquate pour une vie d'ascendance et surtout de victoire spirituelle, eh bien, nous devrons dire: « Seigneur, je te confie la responsabilité pendant que je prie. Tu ne permettras pas que ce temps mis à part avec toi puisse avoir des résultats fâcheux. Tu protégeras donc ce temps de prière que je cherche pour ta gloire contre les assauts de l'ennemi. » Je répète parce que c'est important. Dire: Seigneur, c'est ce que nous devons dire. Seigneur, maintenant, je te confie la responsabilité de mes affaires, de tout ce que je devrais faire aujourd'hui ou à ce moment, pendant que je prie. Je te confie donc ce temps-là. Tu ne permettras pas que ce temps qui est mis à part avec toi puisse avoir des résultats fâcheux. Tu protégeras ce temps de prière, que je cherche pour ta gloire contre les assauts de l'ennemi. Ça, nous pouvons donc prier et dire au Seigneur franchement, et il agira, car c'est notre Père, notre ami, ainsi que son Fils bien-aimé, notre Sauveur et Seigneur. Voyez-vous, chers amis, le principe de la dîme, n'oublions jamais cela, peut aussi agir, même dans ce domaine-là. Donnons donc à Dieu sa part, sa place, et nous verrons qu'après avoir donné au Seigneur le dixième, nous pouvons accomplir davantage avec les 9 dixièmes que nous ne l'aurions fait avec les 10 dixièmes. Et ce principe agit vraiment. Mais il y a une bataille, évidemment, pour la prière. Et nous voyons la nécessité d'avoir une position forte, puissante, délibérée et déterminée en Christ par la victoire de sa croix pour enfin avoir la prière à disposition. Nous devons donc saisir tout le poids de la valeur de la victoire de la croix, du Seigneur Jésus, pour protéger la prière, pour chasser l'ennemi de la base de la prière, afin que cette base puisse être gardée pour la prière, comme l'a fait Shammah autrefois, lorsqu'il a pris position au milieu du champ de lentilles, son épée dans la main, car il n'avait qu'une seule main. Il lutta contre les Philistins, préserva ce champ de lentilles, et le Seigneur accomplit une grande victoire. 2 Samuel, chapitre 23, versets 11 et 12. Alors, le champ de lentilles, il peut représenter notre vie de prière. Notre vie de prière qui doit être défendue contre l'ennemi dans la plénitude de la victoire du calvaire. Il y a une lutte pour pouvoir se donner à la prière. Il y a une bataille pour avoir la prière. Nous avons trop souvent, je le crains, accepté la situation comme ne nous permettons pas de prier maintenant. Les choses sont telles qu'il est tout à fait hors de question de prier, pensons-nous. Oui, elles peuvent l'être, surtout si l'ennemi a sa propre voix. Les circonstances seront alors telles que la prière restera hors de question. C'est donc l'une de ces tactiques de l'ennemi. Il nous faut libérer la place de la prière dans la victoire de son saint nom, du nom de Jésus, et de sa croix. La croix est tout aussi efficace pour nous assurer le temps pour la prière. Si nous voulons l'appliquer, si nous voulons l'employer, que dans tout autre domaine. Mais il nous faut donc approcher la prière, surtout sur la base de la victoire. Il nous faut prendre cette attitude. Il nous faut nous trouver, et nous trouverons qu'il est de plus en plus nécessaire de prendre cette attitude. Je dois maintenant donc me donner à la prière, c'est ce que je dois maintenant décider, et tout la rend apparemment impossible du côté humain. Mais Seigneur, je réclame maintenant, je réclame dans la victoire du calvaire, un temps libre pour la prière. Et nous devons donc demeurer dans cette victoire-là, et cela peut signifier un exercice, bien entendu, afin d'obtenir la prière. Ce ne sont pas seulement les nombreux obstacles qui pressent sur nous dans la ligne des choses extérieures, des événements qui nous laissent aucun temps pour la prière. Combien il est vrai que dès que nous sommes à genoux, eh bien voilà que la prière est arrêtée sur le seuil même. Il peut n'y avoir aucun obstacle de l'extérieur. Il peut même n'y avoir aucune sonnette qui retentit, aucun appel téléphonique, aucun visiteur qui arrive. Nous pouvons être dans le silence. Nous pouvons être enfermés dans notre chambre intime, nous pouvons être réellement sur nos genoux, mais aussitôt commence une activité intérieure qui nous entrave. Ça peut être une sensation physique, nous pouvons avoir soudain un sentiment physique tout nouveau, une crampe au mollet ou une jambe qui fait tellement mal qu'il faut nous relever et qui menace donc tout notre temps de prière. Et notre corps semble ainsi porter un immense fardeau, on peut dire un poids mort. Il peut se développer en nous des symptômes, même de maladies, dont nous étions tout à fait inconscients auparavant. Ça existe. Ce sont des faits. Puis des conditions mentales existent qui nous étaient totalement étrangères jusqu'ici, qui peuvent tout à coup paraître juste à ce moment-là. Oh oui, quel assaut de milliers de choses qui ne nous avait pas inquiétés jusqu'ici, avant. La pensée est donc occupée par des réflexions, des choses que nous ne devons pas oublier et qui ne nous avaient pas troublés jusqu'alors. Et que dirons-nous de ce sens de mutisme, de froideur, de distance et d'irréalité qui descend sur nous dans ces moments-là? L'irréalité, par exemple. Si nous prions à voix haute, par exemple, eh bien notre voix nous paraît tout à coup étrange et lointaine. Il semble que nous parlons dans les airs. Toutes ces choses et beaucoup d'autres encore peuvent paraître lorsque nous voulons nous donner à la prière. Elles se trouvent sur le seuil même. Et pour commencer, nous rencontrons toutes sortes de découragements et d'empêchements à la prière. Et si nous acceptons comme critère les premières 5 ou 10 ou même 15 minutes, nous abandonnerons et nous nous arrêterons et nous nous relèverons pour nous livrer à toute autre chose. Et là, l'ennemi fait tous ses efforts pour empêcher la possibilité de prier. Et il y a donc une phase de la bataille qui doit être surmontée pour que nous obtenions la prière. Nous le répétons, évidemment, ce n'est pas une expérience que nous ne connaissions pas et qui nous soit totalement étranger, à moins naturellement que nous n'ayons pas, par exemple, eu une vie de prière auparavant, à moins que nous n'ayons jamais vraiment pris au sérieux, tout à cœur, notre vie de prière. Mais nous ne disons pas tout cela simplement comme une information à la légère, mais je le dis à vous et à moi-même, afin que nous reconnaissions que la vie de prière nous appelle à une véritable bataille. C'est en quelque sorte la guerre des saints pour pouvoir obtenir la prière et non seulement prier pour la victoire. Il y a cet aspect de l'activité de l'ennemi qui consiste à tout simplement empêcher la prière. Et il faut donc livrer une véritable bataille pour l'obtenir. Il doit y avoir donc une attitude, il doit y avoir une prise de position et une lutte dans la prière pour avoir la prière. Je pense qu'en rappelant tout ce qui est si vrai dans notre expérience, cela aura pour effet désiré de nous aider à reconnaître que, à l'avenir, notre vie de prière ne se développera pas si l'ennemi peut l'empêcher. Et pour qu'elle se développe, pour que nous la vivions, eh bien, il nous faut prendre une position radicale. Et elle ne viendra pas simplement d'elle-même. Et nous verrons que nous n'y serons pas simplement amenés, nous verrons que nous n'arriverons jamais à une vie de prière puissante, que nous n'y entrerons pas facilement, sans une lutte de toute notre volonté. Et nous verrons que nous serons formés et brisés, qu'il y aura un conflit, qu'il y aura une bataille pour l'avoir, et que l'ennemi se saisira de tout le domaine des choses pour s'y opposer, et il emploiera tout ce qu'il a de surnaturel à son ordre. Vous et moi, mes bien-aimés, nous devrons lutter pour notre vie de prière. Et plus nous avancerons spirituellement avec le Seigneur, plus nous trouverons qu'il en sera ainsi. Ce n'est pas que l'ennemi cherche à nous empêcher. Vous et moi, Non, il nous en... ce n'est pas parce que on pourrait penser qu'il veut nous empêcher. Bien sûr qu'il veut le faire. Pour avoir une vie de prière personnelle, il fera tout. Bien sûr, il fera vraiment tout. Ce n'est pas contre cela qu'il lutte simplement, mais c'est le témoignage du Seigneur Jésus qui est ainsi lié si intimement à la vie de prière des enfants de Dieu que l'ennemi cherche à détruire. Car vous et moi, en tant qu'individus, d'êtres humains, nous n'avons pas grand intérêt pour l'ennemi. C'est ce qui est lié à nous, c'est-à-dire ce avec quoi nous sommes liés en Christ. Ça, c'est sa souveraineté, sa gloire, qu'il conteste l'ennemi. Il contestera la souveraineté de Christ, il contestera sa gloire. Tout cela, il va contester. Ne comprenons-nous pas, ne sommes-nous pas frappés très fortement par le fait que cette résistance opposée de la part de l'ennemi contre notre vie de prière implique, elle fait plus qu'impliquer, elle déclare carrément et elle proclame positivement que la gloire et l'honneur du Seigneur sont son nom, son témoignage, sont avant tout défendus par la prière. Si elle est le point central de l'activité de l'ennemi, elle signifie donc que les intérêts les plus hauts du Seigneur sont assurés par la prière. Je répète cela parce que c'est important. Ne comprenons-nous pas, ne sommes-nous pas frappés très fortement par le fait que cette résistance opposée de la part de l'ennemi contre notre vie de prière, que cela implique, elle fait beaucoup plus qu'impliquer, elle déclare carrément et elle proclame positivement que la gloire et que l'honneur du Seigneur sont son nom, son témoignage, sont avant tout défendus par la prière. Et si elle est le point central de l'activité de l'ennemi, eh bien elle signifie donc que les intérêts les plus hauts du Seigneur sont assurés par la prière. Et cela met la prière tout à fait à la première place. Cela n'est certainement pas nouveau, et cependant, il est bon de souligner encore cette grande vérité, car l'ennemi tentera toujours de repousser la prière à la dernière place. Tout ce qui est en relation avec le Seigneur peut passer avant elle, et la prière sera laissée à la dernière place. Peu importe donc ce que nous dirons, tout ce que l'on peut dire aux chrétiens, oui, on peut dire aux chrétiens à ce sujet-là, ne peut les convaincre. Oh oui, c'est seulement la réunion de prière ce soir. C'est ce que certains disent. Oh, quelle barbe! C'est seulement la réunion de prière ce soir. Mais le dimanche soir, où l'on aura le ministère de la parole et la prédication, et surtout s'il y a un évangéliste venant de très loin, eh bien la salle sera même pleine. L'église sera pleine. Mais le soir où a lieu la réunion de prière, on n'utilisera qu'une toute petite salle qui ne sera peut-être qu'à un tiers plein. Et cependant, le dimanche, on avait rappelé que notre ministère le plus important, c'est la prière, et que tout disparaît si la vie de prière manque. On peut donc répéter tout ce que l'on veut à ce sujet-là, on peut le souligner en insistant, cela ne fera aucune différence. Je dois donc confesser être dérouté par le fait que tant de croyants spirituels, car je leur fais le crédit de l'être au moins, rempliront donc les réunions, les conférences où se fait la prédication, mais ils seront très rarement vus dans une réunion de prière ou laisseront à quelques-uns seulement le soin de prendre part à la vie de prière corporative de l'assemblée de l'Église. Et c'est ainsi, il en est exactement comme cela, comme si le fait d'écouter une prédication était la première chose, la chose la plus importante, comme si avoir un enseignement et une vérité biblique était beaucoup plus que toute autre chose. Non, 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 mes bien-aimés, pas du tout. Tout cela ne peut devenir vraiment vital et vivant en nous et efficace que dans la mesure où notre vie de prière individuelle et corporative sera maintenue en force et aura la première place. Permettez donc ce qui peut paraître correction dans ces mots-là, car tout cela est absolument vrai. Oh, nous avons tous été en quelque sorte coupables, moi y compris. Nous devons tous nous dire à nous-mêmes, tu es cet homme-là. Mais nous avons un grand besoin de comprendre la valeur que a la prière pour le Seigneur. Et si nous reprenons toute la Sainte Parole, nous verrons qu'il estime la prière plus que toute autre chose dans son peuple, croyez-le ou pas. Si nous considérons sa propre vie de prière, et comment, vous pouvez relire les évangiles, combien nous sommes étonnés que celui qui est le Fils de Dieu, en tout ce qu'il était, maintiennent une telle vie de prière. Longtemps avant qu'il faisait jour, où il continua toute la nuit même, il priait. Et n'avons-nous pas remarqué que certaines des plus glorieuses révélations de la vérité que nous ayons dans la Sainte Bible sont venues dans la prière, sont des prières. Relisons ces prières de l'apôtre Paul dans les Éphésiens et les Colossiens. C'est à cause de cela que je fléchis les genoux devant le Père. Éphésiens chapitre 3 verset 14. Et il continue ensuite et nous donne sa prière. Et dans cette prière, nous avons une révélation incomparable. Elle lui a été donnée dans la prière, de sorte que notre enseignement est basé sur la vie de prière d'un homme, et notre lumière dans sa véritable valeur, elle vient de la prière, et il n'y a pas de lumière de valeur réelle qui ne soit née de la prière. Toute la valeur de la vérité dépend donc de la prière qui est à sa base, de sorte que nos réunions et toutes nos prédications ne resteront que des choses négatives s'il n'y a pas de notre part une vie de prière correspondante en relation avec elle. Il nous faut donc prier pour recevoir et pour donner. Et nous sentons qu'après des réunions, nous n'avons qu'une chose à faire, c'est de prier plus que jamais sur la base de ce qu'il nous a été dit et de l'apporter devant notre Seigneur. Si nous faisons cela, combien nos réunions porteraient beaucoup plus de fruits. Au lieu d'avoir des notes sur le papier, eh bien nous aurions la vérité dans notre vie. Au lieu d'avoir entendu et de connaître plus une partie de la vérité, nous entrerions dans la puissance agissante de cette vérité si nous nous approchions du Seigneur avec cette vérité. Personne n'est plus conscient du besoin d'entendre ce que nous disons que je ne le suis moi-même aujourd'hui, mais nous parlons ensemble de tout cela et je crois que nous le prendrons tous à cœur. Oh oui, que le jour puisse venir, qu'il vienne ou non, pas pour le nombre, il ne s'agit pas d'un grand nombre, mais il ne s'agit pas de compter les têtes tout simplement, mais que nous puissions voir le jour où parce que nous aurons tous reconnu la place prééminente de la prière, eh bien les réunions de prière seront aussi nombreuses que les réunions de prédication. Il faut donc seulement que tous nous comprenions la valeur que Dieu donne à la prière et nous les regarderons comme aussi très importantes, au moins que les autres réunions dans lesquelles est traité un sujet ou est fait une prédication. Que le Seigneur fasse donc brûler cela dans notre cœur, car c'est l'œuvre la plus importante, c'est, on l'a compris, la prière. Excusez-moi, nous n'avons pas dit beaucoup de choses, mais elles sont absolument importantes. Aussi souvenons-nous de ce que nous avons dit à l'égard de la détermination de l'ennemi qui empêche et qui fera tout pour empêcher la prière. Nous continuerons et nous montrerons que s'il ne peut pas l'empêcher, eh bien il essayera de l'interrompre. Et s'il ne peut pas l'interrompre, eh bien il essayera ensuite tout simplement de la détruire carrément. Ce sont d'autres aspects de la même chose, mais nous avons peut-être compris qu'il est nécessaire d'entrer dans une place définitive à l'égard de notre vie de prière et de la considérer par le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous terminons maintenant ensemble par la prière. Prions. Prier, c'est décharger son cœur dans une confiance illimitée en l'amour paternel de Dieu et ensuite poursuivre sa route joyeusement comme un enfant. Prions. Dieu Tout-Puissant et Éternel, nous chantons tes paroles dans les psaumes, les paroles que tu nous as données dans la Sainte Écriture. Nous te présentons nos préoccupations et nos peurs, mais dans ces paroles, tu donnes déjà la réponse à nos besoins. Tu nous as toi-même donné une école de prière dans les psaumes. Nous pouvons exprimer dans les paroles qui nous sont présentées nos propres expériences et désirs, et dans le chant, nous ressentons déjà combien tu ne cesses de nous répondre que tu es toi-même la fin de notre désir, que tu transformeras notre détresse et que tu es le rocher sur lequel nous pouvons bâtir notre vie, que tu es le refuge où nous pouvons nous rendre pour recevoir aide et protection, que je goûte la saveur des paroles dont tu nous as gratifiées, que ces paroles pénètrent toujours plus profondément dans notre cœur pour que nous puissions être remplis de plus en plus de ton Saint-Esprit salutaire. Amen. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Et je dirais à bientôt, à nouveau. Et que le Seigneur vous bénisse richement. Demain matin, Dieu voulant, je poursuivrai cette série. À demain matin donc. Au revoir mes très chers amis.